Comment vous appelez-vous ?
Bonjour, s'il vous plaît, un petit peu de respect. Je m'appelle John Rook. Et vous ?
Je suis 113.
Vous êtes nouveau ici ?
Veuillez seulement répondre à mes questions.
D'accord. Écoutez, pas peine de s'enflammer comme ça.
Qu'est-ce que vous avez fait hier ?
Hier ? Comme tous les jours, je suis à la soupe populaire. Je fais la queue pendant 3 heures. J'ai un bol de bouillon. Je suis rentré chez moi, j'ai mis une heure, le métro était bondé, et le fauteuil roulant, je suis désolé, ça passe pas quoi. J'ai attendu une heure, l'heure de pointe passe. Je suis arrivé chez moi, et je me suis engueulé par ce connard de gardien qui réclamait le loyer.
Comment s'appelle-t-il ?
Le gardien ? Je sais rien.
Pour quel organisme travaille-t-il ?
Pour la régie du truc là, c'est un des trucs gouvernementaux pour les invalides de guerre. Ils me demandent un loyer, vous rendez compte ?
De combien ?
De combien ? 430 crédits. Pour un revenu de vétéran de 622.
Quel est le nom de votre mère ?
Le nom de ma mère ? De quoi ?
Quel est le nom de votre mère ? Contentez-vous de répondre aux questions.
Je sais plus. Vous savez ce que c'est ça ? Je te montre. Et là, il y a un... Et vous voyez là, une grande cicatrice, là ? J'ai perdu la moitié de mon hémisphère gauche, droit.
Quel est le nom de votre mère ?
Samantha, peut-être.
Qu'est-ce que vous comptez faire demain ?
Demain ? Elle est populaire, une heure plus tôt. Mais j'ai aussi un rendez-vous avec mon pote Brian. C'en est un, il a encore ses jambes lui. Donc, du coup, il me pousse un peu dans le parc.
Quel est le nom de la mère de Brian ?
La mère de Brian de qui ?
Vous ne le savez pas ?
Je vois pas de qui vous parlez.
Quel est le nom de la mère de Brian, votre ami ?
Vous êtes qui, vous déjà ?
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule
Tarki. Salut.
La pêche.
La patate.
C'est toi aujourd'hui qui nous ramène ce sujet de podcast en compagnie de Broussaille. Broussaille, bonjour.
Salut.
Et nous sommes en compagnie de Rieck Cahuzac.
Salut. Alors moi j'ai une question pour toi, Romaric. Comment ça se fait que t'as encore de l'énergie et ce peps en début de podcast ?
Parce que c'est un robot.
Je suis un robot, exactement.
D'accord,
je suis
okay.
Une machine.
D'accord, je comprends mieux.
Je suis une machine, mon ami.
Non, mais du coup, si tu nous le dis direct, il n'y a pas d'enjeu là.
Je l'ai répété 3 fois, parce que c'était ma pénalité.
D'accord.
Maintenant, je tape sur la table et je te tue. On ne comprend rien du tout à cette
Restez avec nous, ça fera sens plus tard.
Ça fera tout ce qu'on vient de dire, fera sens d'ici quelques minutes, quand Darky nous aura expliqué The Inhuman Condition, qui est le jeu qu'il nous a fait tester.
Exactement.
Dont on ne savait pas avant. Dire s'il s'agissait d'un jeu de rôle ou d'un jeu de société avant de débuter l'enregistrement de ce podcast et avant de débuter les tests.
Alors, on n'en a pas parlé, on n'a pas débriefé, on ne sait pas encore
pas
qui pense que ça en est, ça en est pas.
Ça va être très intéressant. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Présente-nous son auteur. Son auteur, il est assez génial.
Complètement.
Parle-nous de tout ça.
Tommy Marange, c'est un type qui est au co-auteur de Secret Hitler. Secret Hitler, si vous ne connaissez pas, c'est un genre de loup-garou dans lequel il n'y a pas de mort. C'est un jeu un peu plus moderne que l'ancien loup-garou, mais c'est un jeu à identité secrète dans lequel on joue des dirigeants de l'Allemagne qui allons devoir décider du sort de l'Allemagne, et parmi nous se cachent Hitler et des fascistes. C'est un jeu vraiment exceptionnel, je vous le conseille. Et ce co-créateur, il est très penché philosophie. Il a fait un autre jeu qui s'appelle Philosophy Bro, que je connais mal, mais qui est très, très orienté là-dessus.
Quelqu'un de bien.
Il a co-créé ce nouveau jeu, qui était un jeu à pledger sur Kickstarter en 2017. Mais comme tous leurs jeux, ils sont accessibles en ligne gratuitement et vous pouvez aller télécharger les PDF, voire jouer à des versions en ligne que je mettrai en description de ce podcast. Et donc, il a créé ce jeu qui s'appelle Inhuman Conditions. L'idée de ce jeu, c'est de simuler une discussion comme on voit dans Blade Runner, dans lequel tu as un inspecteur qui interroge une personne et qui, à l'issue de cet interrogatoire ou pendant cet interrogatoire, doit déterminer si cette personne est humaine ou inhumaine. D'ailleurs, dans le jeu, ici, nous, on a joué sur une version informatique, mais dans le vrai jeu, il y a des tampons. T'as une petite fiche comme ça et bam, tu dois tamponner si le gars est humain ou bam, le gars est robot. L'idée de ce jeu, c'est donc que la personne que je vais interroger, là dans notre exemple, ça va être Adrien, donc moi je vais être l'inspecteur, j'ai 5 minutes pour le bombarder de questions. Avant que le jeu commence vraiment, il a tiré au hasard un rôle. Et ce rôle, soit il est humain, il n'a rien à cacher, il doit traverser l'interrogatoire en répondant à mes questions.
Darky.
Point barre. Ou il est robot. À partir du moment où il est robot, il a des contraintes. Il va réagir bizarrement ou alors il a des contraintes. Il y a des mots qu'il ne peut pas dire. Il doit se comporter d'une certaine façon. Il doit être agressif. Il ne peut pas mentionner le passé. Il n'a pas le droit d'être serein quand je...
Une des choses parmi tout ça, voilà. Parce que là, si c'est tout ça, c'est clair que...
Bien sûr, pardon, bien sûr. C'est, voilà, un robot, c'est quelqu'un qui a une petite contrainte. Je ne sais pas si on précise maintenant qu'il y a deux types de robots. D'accord.
Il y a plusieurs même, non ?
Oui, en fait, mais il y a deux types de robots. Tu as les robots passifs. Les robots passifs, ils ont une contrainte assez forte qu'ils vont devoir tenir tout le long de la partie. Typiquement, je vais mentionner une partie qu'on a joué tout à l'heure. Voilà, le robot passif n'a pas le droit de mentionner quelqu'un par son prénom, quelqu'un qu'il connaît. Il n'a pas le droit de dire ma mère, Bobby, Rob. Il ne doit que mentionner des étrangers ou des ennemis. Et donc, tenir un interrogatoire de 5 minutes en évitant tout le temps de mentionner des prénoms, ça peut être hyper contraignant. Et justement, tout le jeu du robot, ça va être de répondre le plus naturellement possible pour tromper l'inspecteur. Parce qu'à l'issue de la partie, l'inspecteur va dire « Bah, je pense que t'as répondu, visiblement, t'étais assez libre dans tes réponses. »
C'est pas à l'issue de la partie. Ça peut être pendant. C'est à tout moment dans la partie.
Oui. C'est vrai.
Important.
C'est vrai que c'est important. Je vais expliquer pourquoi. Mais donc, le schéma, je pense que quand il a été conçu, c'était juste ça. Tiens, on va interroger quelqu'un. Soit c'est un robot, soit c'est un humain. Donc, si c'est un humain, il faudra le tamponner humain. Sinon, l'inspecteur se trompe et les deux gens ont perdu. Et si c'est un robot, il faudra le tamponner robot. Sinon, c'est que le robot a gagné. Il a réussi à tromper l'humain. Pour pimenter un peu tout ça, je l'ai dit, il y a deux types de robots. Soit tu es robot passif, soit tu es robot actif. Le robot actif, il a 3 contraintes sur sa carte. C'est des contraintes un petit peu pareilles. Par exemple, il doit répéter mot pour mot une question qui vient de lui être posée.
Ouais, alors, la nuance, c'est que ce n'est pas des contraintes passives qui ont lieu tout du long, c'est des contraintes one-shot.
Exactement, oui. Tu as raison. Qui doivent être vraiment...
C'est des achievements à obtenir. Quoi.
C'est très bien le mot achievement parce que justement, parmi ces 3 contraintes, si pendant la partie, il arrive à en faire 2 sur 3...
2 sur les 3. Réaliser 2 conditions sur les 3.
C'est ça. Il frappe la table ou il claque dans ses mains et il dit « Je te tue, j'ai gagné. »
Donc le robot actif tue son interrogateur et donc il a gagné la partie.
Exactement. Dans le roleplay, l'idée c'est que le robot, en fait, il a un comportement à avoir pour se déprogrammer et pour du coup avoir le droit d'être violent envers les humains. Son seul but, c'est de faire un acte terroriste. Il va subir un interrogatoire. Il a des phases de déprogrammation, donc c'est-à-dire il doit se forcer à répondre d'une certaine façon pendant l'interrogatoire. Et s'il arrive à le faire, il se déprogramme et bam, il peut dire tac, j'arrête la partie, j'ai gagné. Dans le gameplay, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque que si moi je suis en train de parler à Adrien, qu'il a des réponses bizarres, j'arrive pas vraiment à déterminer si c'est un humain ou un robot, parce que franchement, il a l'air d'avoir des zones hyper sombres sur certaines de ses réponses, j'ai pas le loisir de lui poser 50 000 questions pendant ces 5 minutes. En fait, je dois me dépêcher, parce que si ça se trouve, il est en train de se déprogrammer. Donc ça impose d'être tout le temps sur le qui-vive, c'est pour ça que Romaric disait hop, 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 on n'attend pas les 5 minutes avant de dire à quelqu'un tu es robot. On le fait dès qu'on est suffisamment sûr. En partie.
Parce que sinon, on prend le risque qu'il ait le temps de réaliser 2 des conditions sur les 3 et donc qu'il nous tue.
Ouais, mais c'est intéressant. J'ai vu que j'ai testé plusieurs parties et qu'en fait, j'ai nuancé mon comportement en fait là-dessus. On en reparlera.
Ah, enfin, d'accord. Ok.
Je pense que j'ai pas besoin de préciser les autres petites...
D'autres petites variantes de règles.
Exactement. Ce qui est quand même important de noter, je trouve, c'est que ça produit des parties qui pourraient être filmées et regardables parce qu'il y a une vraie ritualisation. La personne qui va être l'interrogateur, elle va vraiment annoncer le truc. Voilà, pendant ces 5 minutes, je vais devoir déterminer si tu es humain ou non. Il a 2-3 protocoles. Il choisit un module qui est en fait un thème qui va vraiment thématiser ces 5 prochaines minutes. Par exemple, je vais interroger ta capacité à te projeter dans l'avenir. Je vais interroger ta capacité à ressentir des compétences humaines. Et c'est juste une couleur, ça donne des indications sur les questions qu'on pourrait poser, mais qui sont par la suite en fait complètement libres. Je peux faire ce que je veux quand j'interroge quelqu'un. Et voilà, il y a une petite batterie de règles qu'on va pas se préciser, mais voilà à quoi ressemble le jeu. Une discussion de 5 minutes, assez intense, dans laquelle quelqu'un essaie de déterminer si la personne en face de lui est sous contrainte ou non.
Alors, et si vous connaissez Blade Runner, vous savez que le film s'ouvre sur une scène d'interrogatoire entre Deckard et donc...
Ouais, le test de Voight-Kampff.
Exactement, qui est juste... d'un point de vue de la réalisation fascinante. Et ce qui est d'autant plus fascinant, c'est que alors que Deckard est en train de tester ce réplicant, on est aussi, en tant que spectateur, en train de nous poser la question de savoir si Deckard est un réplicant. Et c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une espèce de scène qui nous montre une scène dans laquelle le spectateur lui-même est projeté. Enfin, il y a une... avec un écho...
Il y a une mise en abîme.
Il y a une mise en abîme énorme dans ce film.
Et je pense qu'on se pose la question même dans le jeu. Enfin, si... t'as fini de...
Je t'en prie, oui.
Prends la parole.
En fait, on se pose la question en tant que... C'est interrogateur le...
Ouais, investigateur et suspect.
Oui, en tant qu'investigateur, j'ai fait plusieurs parties justement parce que j'avais une interrogation là-dessus. On se demande si soi-même on est humain et si on reste humain. Mmh. Et dans la première partie, en fait, parce qu'on a un chrono de 5 minutes pour tester si l'autre est un robot, et ben en fait, je m'étais dit, je vais être quelqu'un de gentil et je me suis comporté comme une vraie connasse. C'est-à-dire, j'ai mené l'entretien en étant très agressif dans mes questions, en attaquant la personne en face. Ouais. Et en fait, je me suis aperçu que, un, c'était un travers que j'aime pas chez moi, mais deux...
Ton propre petit tyran.
Mais je sais pas, est-ce que c'était un bon angle d'attaque. Donc du coup, j'ai fait, pour confirmer ça, deux autres parties derrière, pour vérifier s'il n'y avait pas une façon plus humaine d'aborder l'entretien. Et en fait, ça m'a bien plu. Parce que quand tu travailles sur l'humain, eh ben, tu forces l'autre. En fait, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que la personne qui joue l'humain ou joue le robot est aussi en impro. Parce que quand on lui pose des questions sur sa vie privée, si je lui demande « où est-ce que tu habites ?», t'es obligé de trouver une réponse. Si on te demande « donne-moi ton adresse, quel est ton nom, quel est ton numéro de matricule » ou quoi que ce soit, l'autre imagine. Donc, il y a vraiment un piège là-dedans, c'est que la personne en face, ses réponses peuvent être bizarres, mais simplement parce que le joueur est en train d'improviser une réponse.
Oui, bien
donc,
sûr.
Il y a vraiment un biais.
C'est l'astuce du jeu.
Voilà, il y a bien un biais énorme. C'est-à-dire que s'il se comporte bizarrement, c'est peut-être aussi que le joueur improvise et galère. Là-dessus, donc...
Ouais, ou même sans qu'il y ait d'aspect galère, c'est qu'il est en train d'improviser et éventuellement, il s'est mis dans la tête une posture. Genre, par exemple, moi, je pense qu'il y avait une fois où je jouais la première partie qu'on avait faite. Je voulais jouer... Avec j'étais un Darkie. Robot, mais bon, peu importe, avec Darkie. Et avant même de commencer à accomplir mes objectifs de robot, je voulais d'abord instaurer un personnage et je voulais qu'il ait des problèmes de mémoire, qu'il soit un peu tête en l'air, machin. Et en fait... Déjà, ça crée du contenu qui fait qu'il m'a pris pour un robot tout de suite, donc il m'a flingué. Et j'étais effectivement un robot, mais c'était avant même que je puisse mettre en place mes trucs. Mmh. Et de la même façon, Flavie, tout à l'heure, on jouait une partie où je commençais avec un a priori super fort qu'elle était humaine en termes de temps de réaction à la lecture des règles. Ça, c'est un des petits travers du jeu, on en reparlera. Mais malgré ça, elle a commencé à parler non-stop. Et elle avait un débit incroyable. Je me suis dit, bon, ça, c'est un truc de robot, quoi. Ouais. Il y a une sorte de limitation à respecter, machin. Et donc, c'est contrainte.
À jour,
ouais, alors qu'en fait, c'est une contrainte qu'elle s'était imposée elle-même, qui était juste mon métier, c'est je suis théoricienne du complot.
Parce qu'elle était humaine, c'est ça ?
Ouais, elle était humaine, ouais. Et donc, en fait, les contraintes qu'on se donne en tant que joueur, parce qu'on veut paraître humain, donc on veut se créer une personne, un avatar humain, les contraintes qu'on a en tant que robot, tout ça fait qu'il y a ce gros melting pot où on sait. Pour l'inspecteur, on ne sait pas si c'est de la contrainte qui vient du joueur, de la carte, si c'est de la tension, de l'improvisation. Si c'est... Donc il y a toutes ces couches de tension qui s'additionnent, qui font que le mécanisme passe relativement bien. Il y a quelques petits travers qu'il faut éviter. Le premier, c'est que le jeu est en anglais aujourd'hui, donc si vous n'êtes pas ultra à l'aise en anglais, c'est compliqué parce qu'en tant que robot... Si vous devez respecter votre règle et que vous devez la regarder régulièrement, ben ça se voit le regard qui se baisse sur la carte. Si vous l'avez pas en mémoire,
ben
ouais, bien sûr. Ah,
si, complètement.
Oui.
Ça marche aussi à l'intro du jeu parce qu'en l'intro du jeu, pour l'instant dans la version actuelle, le jeu tire au hasard trois possibilités qui peuvent être les mêmes. Tu peux avoir trois fois t'es humain.
Trois rôles pour
ouais,
le.
Trois
le
rôles,
suspect,
pardon,
ouais.
Pour le suspect.
Il y a beaucoup de rôles différents d'Arky ou alors il y en a qui
trois.
Sont récurrents qui reviennent.
Il y a ces trois-là. Il y a robot. Passif, robot,
non,
actif.
Excuse-moi.
Ouais. Nombre de contraintes.
Voilà, c'est ça.
Il y en a pas mal. L'appli ouais. Sur laquelle on a, on
moi,
peut
c'est ça
tourner.
Qui me fait très peur, en fait.
Non, ouais. C'est prévu qu'il y en ait beaucoup. Ils n'ont pas de mal à se dire, on en rajoutera 100 s'il faut en les playtestant.
Et il y a des contraintes plus faciles que d'autres.
Ouais.
Et alors, il y a un système d'élimination, je ne sais pas si tu en as parlé, on élimine des contraintes.
On n'a pas mentionné
ça,
l'histoire de
d'accord.
La pénalité.
Ouais,
mais il y a des contraintes, oui, parce qu'en en fait, tu as une contrainte à choisir sur trois, donc chacun en élimine un. Mais c'est vrai qu'il y a des contraintes qui passent plus faciles que d'autres.
Mais hein, ouais.
Répéter la phrase mot pour mot, même si tu changes l'interrogation, alors que par exemple, il y en avait une contrainte, c'est dire un juron, tu vois.
En fait, je pense qu'il faut en parler. Ouais, il faut donner cette règle parce que moi, j'ai un truc important à dire à ce sujet. Donc, un des éléments qu'on a squeezé, c'est qu'en début de jeu, en même temps que le joueur choisit, enfin, tire au sort s'il est un robot ou autre, juste avant ça, les deux joueurs doivent fixer ce qu'ils vont appeler une limitation, une pénalité. La pénalité, elle est connue des deux joueurs et elle est fixée plus ou moins par les deux joueurs. Il y en a une liste de trois qui est soumise à l'inspecteur qui va en éliminer une des deux. Il va dire, je veux pas celle-là. Et les deux autres arrivent au joueur robot, enfin, au joueur, au suspect, qui vont choisir une qui sera appliquée pour la partie. Et en gros, c'est des trucs du genre, claquer les doigts. Ou alors, répéter la question posée par l'inspecteur. Ou alors...
dire deux mots qui riment.
Dire deux mots qui riment, voilà. Donc, il y a des contraintes comme ça, qui vont être des choses orales, des choses gestuelles, interrompre l'inspecteur, etc. Cette contrainte, elle n'est utile que... A priori, elle n'est utile que pour le robot. C'est-à-dire que c'est une sorte de joker pour le robot. Ça peut lui servir en cas d'étourderie, qu'il a oublié sa règle, en cas de... Enfin, voilà. Donc, les robots peuvent utiliser ça comme manière d'avancer, pour résumer. Mais ce qui est ultra important avec ces trucs-là, donc non seulement elles sont choisies, elles sont connues des deux, donc c'est un élément qui peut faciliter la détection, parce que si je claque des doigts, que Romaric qui m'interroge voit que la contrainte imposée c'est claquer des doigts, Romaric va dire « Ouh là là, ça c'est sacrément louche ». L'aspect ultra intéressant qui est derrière, c'est que c'est beaucoup de choses assez faciles, et donc en fait c'est beaucoup de choses qui ont lieu naturellement pendant l'interrogation. Une partie avec toi, Darky, il y a plein de moments où tu dis « Mais t'arrêtes pas de répéter mes questions, c'est horrible !»
Et même des choses, il y a une contrainte, je suis tombé sur une contrainte, « Hésiter sur un mot ». Donc hésiter sur un mot,
ouais,
c'est ma...
Mal prononcer un
c'est
mot,
ma,
ne pas finir comment, une phrase.
C'est ma comment, troisième mission. Juste à cette phrase-là, vraiment tendre l'oreille pour...
Après, on joue sur le fait que même si t'es humain, que t'as rien à cacher, si tu penses à hésiter sur un mot, tu vas peut-être mal le faire. C'est pas forcément facile
ouais,
de faire consciemment quelque chose.
Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. C'est qu'en fait, c'est des choses qui arrivent naturellement quand t'improvises, quand tu parles. En plus, parler avec les mains, tu vois, il y a des trucs, c'est si tu dis un chiffre et que tu fais le même symbole avec tes doigts, genre si tu dis 3 en montrant 3 doigts, c'est une des conditions. Sauf qu'en fait, c'est des choses qui peuvent arriver naturellement à l'oral. Donc pour peu que tu fasses pas toujours gaffe, il y a plein de choses qui peuvent se glisser. Et donc c'est un centre d'attention pour l'interrogateur qui est assez, assez important.
Est-ce qu'on le présente en mode playtest, ce truc ? Est-ce qu'on fait un tour de jeu, savoir qui en a pensé quoi, etc. Ou comment on fait émerger les problématiques dans ce podcast-là ?
Moi, je pense que le mieux, c'est de faire un tour de table. Okay. Broussaï a déjà dit pour sa part qu'il y avait ce côté l'interrogateur. Moi, je partage complètement ton avis là-dessus.
Alors, sur le premier... Oui, termine.
Juste que regardez, dans les deux parties que j'ai jouées, je me faisais appeler 713.
Oui.
Si ça, c'est pas le signe que j'avais
bien senti complète que
l'enquêteur en fait est dans une position d'administratif. Et qu'est-ce que l'administration si ce n'est le bras mécanique de l'État froid,
oui, mais
monstre, c'est alors même un robot lui-même en fait.
Voilà. Franchement, vous imaginez devoir choisir entre la vie et la mort d'un être qui soit un robot conscient de lui-même ou un humain. Dans tous les cas, c'est la peine de mort qu'on est en train d'appliquer quand
alors,
on est investigateur.
Justement. L'idée, c'est que je me suis dit, est-ce que au lieu d'être une interrogatrice froide, on peut pas être humaine ? Et j'ai essayé dans la deuxième partie d'être humaine. Et je me suis dit, au départ, en fait, ce qui m'a juste forcé à jouer la connasse, c'est que je me suis dit, j'ai que 5 minutes.
Ouais, ça c'est.
Et donc,
c'est très, très
mais en fait,
mais
je me suis dit à la deuxième partie,
la part
non,
du designer.
J'ai pas que 5 minutes. J'ai 5 minutes en tout, et 5 minutes, c'est énorme.
Mais non, donc, c'est pas
si,
vrai.
Si, si.
Bon,
attends, je m'en suis rendu compte à la deuxième partie, et en fait, tu peux vachement copiner en 5 minutes. Tu dis.
Alors, t'es pas tombé contre un robot assassin.
Mais voilà,
alors,
t'as pas intérêt
oui,
à copiner.
Oui, mais en fait, quand tu commences hyper doucement, en ayant des questions hyper gentilles, si le robot est agressif, en fait, il y a des triggers qui vont devoir déclencher leur agressivité, et en fait, il ne peut pas les enclencher parce que nous, on a la main constante sur le bouton qui permet de valider que c'est un robot ou pas. Si, en fait, il est obligé pour le robot assassin actif...
C'est le robot violent, ouais.
Le robot violent, pour déclencher, en fait, pour tuer l'investigateur, l'enquêteur, il est obligé d'utiliser valider deux de ses conditions.
Ouais.
Sauf que c'est souvent des conditions... qui repose sur une certaine violence, par exemple.
Non, pas du tout. C'est là où tu te trompes,
ouais.
En fait, je pense.
J'avais insulté le...
Quand j'ai gagné contre Darky, conditions étaient à 3 questions, dans ta réponse, citer un nom d'animal.
Mm-hmm.
Première condition.
Ouais.
Deuxième condition, à un moment donné, faites un bruit d'animal. Donc là, tu fais, ok, le bruit d'animal, il est un peu tendu. Le premier, ça peut passer. Mon métier, c'était fabricateur de faux animaux.
Ouais.
Eh ben, je peux t'assurer qu'à détecter ces cotons, et ça peut aller très, très vite.
Il a gagné alors qu'il a fait un bruit de singe devant moi à l'enflure. Et j'ai pas eu le temps de me dire
un bruit de quoi
suspect. Un bruit de singe. Il a fait un petit. Et je me suis dit, ouais, ça passe. Ça
et c'est vrai que moi, je me suis dit, je vais jouer un peu contre le jeu. Alors, est-ce que on s'est demandé. Enfin, je m'étais demandé si c'était de l'anti-jeu. C'est-à-dire que, en fait, le joueur, il est obligé d'improviser s'il joue un humain. Donc, en fait, forcer quelqu'un à improviser en permanence. C'est quoi le dernier livre que tu as lu ? C'est quoi ton dernier film ? Et j'aime beaucoup ce film. Et tu peux m'en parler. Au fait, c'est.
Et ça, c'est le cœur du jeu.
Et hein. Ça, tu vois, par exemple, j'étais avec Darky, et à un moment, il joue un ancien vétéran de la guerre contre le robot, et il me dit j'aime pêcher, tout ça. Et je lui dis et tu pêches quoi ? Et là, tu sens que, tu sais, le joueur passe en mode imaginatif, et du coup, il m'a sorti, après un moment, la truite. Mais je sais qu'à un moment, je me suis dit, le robot dans cette situation-là, il aurait essayé de caser un de ses triggers.
Alors, bah pas forcément, parce que t'as deux robots. Ouais. T'as le robot assassin qui, lui, aurait peut-être fait ça. Et le robot passif.
Alors, le robot passif. Ouais, le robot passif, au deuxième entretien qu'on a fait, il est pratiquement indétectable, le robot passif.
Bah, avec ta gentillesse et la façon dont tu mènes le truc.
Mais même, il avait une condition de robot passif qui est quand même. Tu ne devais pas dire du mal des autres.
Non, je ne devais pas décrire des effets négatifs qui sont arrivés aux autres. Tu vois, des conséquences négatives sur
les autres. Tu dis comme condition là, c'est facile à tenir en fait.
Ben, en fait, alors oui, Adrien. En première lecture, oui. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce jeu te pousse à devenir un bon interrogateur. C'est-à-dire, plein de situations, penser à citer des gens, à citer des lieux, à citer des émotions, à citer des parties de son corps. En fait, à aller taper dans tous les domaines. Et c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Moi, pour citer aussi, moi aussi j'ai une vision comme toi de testons des stratégies. Ma première partie en tant qu'inspecteur,
m'a tellement fait peur.
La première chose c'était, j'ai été deux fois robot assassin quoi. Donc deux fois c'était, j'ai des conditions super foireuses à faire machin. Donc je dis, j'avais ce blocage en tête, donc j'ai fait pendant cet interrogatoire, tu ne répondras que par des enchaînements de deux mots. À chacune de mes questions, tu ne pourras répondre que deux mots. Voilà. Donc là, tu commences. Donc tu fais hier, tu étais où ? Travail. Et donc là, du coup, le robot assassin a zéro moyen de s'exprimer. Et puis, au bout d'une minute trente, un truc comme ça, j'ai fait non, mais attends. Enfin, moi-même, dans ma tête, je me dis, mais avec ça, ok, je squeeze le robot assassin, mais les deux autres, c'est fini quoi.
D'ailleurs, j'étais robot passif et je me disais, si tu continues comme ça, très bien. Et sauf qu'au bout d'une minute, t'as dit, d'accord, on a fini ce chapitre-là, je pense que je t'ai fait perdre du temps maintenant. Et tu es parti sur des questions très alambiquées, à long terme, t'as essayé de brasser très très large. Ce que veut le jeu.
C'est ça, et en gros, en tant qu'inspecteur, il faut que t'apprennes à poser les bonnes questions. Ça veut dire des questions rapides pour l'empêcher de répondre, mais des thématiques différentes pour l'empêcher de passer en sous-marin autour d'une problématique. Mais en même temps, le mec, il improvise, donc c'est normal. T'as une sorte de relation sociale ultra intéressante.
Ouais, mais il faut aussi, je me dis, en fait, c'était une contrainte aussi, je veux aussi rester humaine, en fait, dans cet entretien-là. Parce que si moi, je perds mon humanité, en fait, qu'est-ce que j'ai sacrifié, en fait ?
Moi, je me suis senti très proche du personnage de Papers, Please, hein, pendant la partie. Hein.
Et voilà, c'est ça,
tu commences
complètement.
En disant, il y a des conversations, je commençais, bonjour, comment allez-vous ? Vous voulez un café ? Et puis après, tu vois que, faut quand même y aller, donc tampon, pas tampon.
Ce côté-là, après, je me dis, il y a un moment, j'ai perdu contre un robot passif, mais en même temps, je me dis, je préfère avoir perdu contre un robot passif qu'avoir tué un humain innocent. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses humainement, en fait
Alors, déjà je pense qu'à l'issue de ces 20 minutes de podcast, je pense que c'est plus seulement imaginable de dire que c'est un jeu de société qui n'est pas un jeu de rôle.
Oui, c'est clair. Hein.
Oui. J'ai la pensée d'auteur là-dessus.
De toute façon, moi, après une partie...
Tu vas nous dire ce qu'il en pense.
Il a pas fait un discours dessus, mais il inscrit son jeu dans une des deux cases.
Il dit que c'est un jeu de plateau,
bien.
À mon avis.
Et tu veux pas nous le dire avant de...
Non, on vient de confirmer Adrien, donc je vais le dire. C'est un party game de 5 minutes pour lui. Il mentionne nulle part que c'est un jeu de rôle, mais on en parlera après, peut-être.
Très bien, mais en tout cas, pour moi, il aurait tout aussi bien pu l'inscrire dans la tradition des jeux de rôle.
Après, oui, on peut dire que c'est un petit jeu drôle, tu vois.
Ah non.
Non, mais au sens, c'est pas...
Alors, dans ce cas-là, Lou et Morgan, le jeu de...
Valentin,
c'est un petit jeu drôle. Alors, ceci dit, Valentin le dit, que c'est un Pico Games, etc. Ouais. Mais pour moi, c'est de la même nature. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des jeux de rôle qui, certes, tiennent sur des règles très, très restreintes, mais qui apportent, en fait, une expérience qui ne peut pas être décrite ou racontée autrement qu'en le vivant.
Et je pense qu'à faire plusieurs fois aussi, parce que comme ça dure 5 minutes, tu peux en faire 15 parties.
Exactement, et expérimenter différents modes de jeu, comme le fait Adrien très très bien, comme il l'a très bien décrit, c'est-à-dire dire, allez, je suis un investigateur, je vais faire une stratégie d'investigation, puis se réaliser en plein milieu, et merde, en fait, ça marche
mais
pas.
Mais tu vois, même,
avoir,
même les...
Comment d'autres choses, etc.
Alors, il me semble, c'est pas dans les... Je me trompe peut-être, mais par contre, c'est un jeu, Human Condition, qui s'observe très bien. Être observateur, c'est très divertissant.
Alors moi, je suis pas d'accord avec ça.
Ah ouais, okay. Vraiment, bah pourtant c'est super divertissant de voir, parce que tu te poses la question, t'es dans la même tête que l'investigateur, t'as pas d'infos en plus que lui, tu fais pas,
t'as pas d'agentivité, mais t'es dans la même situation de
est-ce que c'est un robot,
t'es comme, okay. t'es comme le spectateur de Blade Runner où tu te dis lequel des deux
ça présente un intérêt, mais par rapport à l'intérêt
rapport à jouer,
que ça
sûr.
Représente c'est ça que je voulais dire.
Et il y a l'idée, tu vois, aussi j'ai exploré, tu sais, il y a plusieurs, en fait il y a plusieurs domaines de questions, tu vois, par exemple. Et c'est vrai qu'au départ, on est parti sur la vie quotidienne, parce que c'est facile de poser des questions un peu en mode stakhanoviste, sur des questions sur la vie quotidienne. Je me suis aperçu, tu vois, par exemple, j'ai essayé d'expérimenter le domaine moral, des questions de morale, mais, et qui sont enfin, assez troublantes. Alors, c'est un robot passif, donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que c'est pas... Alors, c'est vrai que j'ai posé des questions un peu... Il y a des moments, je me demandais, est-ce que je suis pas un peu limite avec mes questions? Parce que c'est des questions... j'étais un peu en mode passif-agressif, tu sais. C'est... vous êtes célibataire, hein? Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes impuissant. Ah, et, c'est et, marrant, là, et là, bon, y a eu le rire de Darky et tout, mais c'est des choses que... qui sont... Tu vois, qui sont... T'as l'air d'être gentil, de poser la question, mais sur des domaines moraux et sur des domaines moraux où la personne doit trancher.
Ce jeu, il te pousse à déployer toute ton inventivité quand t'es investigateur. Tu serais prêt à tout, hein. Tu serais prêt à faire des blagues, à essayer de voir s'il rigole.
Mais
pas,
oui, voilà, c'est ça.
Tu te mets vraiment dans les cordes.
Il faut que je parle d'un truc après, Darky. Une opposition qu'on a sur le choix de nos jeux et les jeux que tu ramènes à la barre, souvent, ils ne me plaisent pas. Ouais. Et celui-là, il m'a beaucoup plu. Et il faut qu'on comprenne pourquoi, parce qu'en fait, il ressemble beaucoup aux jeux que tu ramènes. D'habitude, en fait.
Sauf que celui-là, c'est un jeu de rôle.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre...
C'est un jeu social.
On passe à Link Q et tout ça, par exemple.
C'est un jeu social, en fait. C'est pas un jeu d'astuce mentale, de trouver des mots, de machin. Ouais. C'est un jeu social.
Ça ressemble à Paper Please, en fait.
Non.
Enfin, il y a de la grosse fiction, c'est
Link,
ça, le truc.
Link ressemble à Paper Please dans le sens où c'est un jeu mécanique. C'est,
est-ce que tu pourrais expliquer rapidement Link? Voilà, très bien.
Alors, Link, je me rappelle plus trop des règles.
Link, mais... dans une partie classique, on joue à 4 joueurs.
Natacha.
Et en fait, tu vas attribuer à 2 personnes parmi ces 4, secrètement, un même mot. D'accord, ce sont 2 espions qui ont le même mot, par exemple, cacahuète. Les deux autres joueurs n'ont pas de mot, et donc ils sont contre-espions. Pendant le but de la partie, les contre-espions doivent trouver qui sont les 2 personnes qui ont le même mot. D'accord. Tandis que les 2 personnes qui ont le même mot doivent se retrouver. Parce que moi, si j'ai reçu cacahuète, je ne sais pas qui autour de cette table a aussi reçu cacahuète.
Et donc, à tour de rôle, chacun dit un mot.
Exactement.
De son choix.
Exactement.
Et il y a 2 tours, c'est ça?
C'est ça, il y a 2 tours. Donc, en tout, je dirais 2 mots. Mais c'est déjà beaucoup comme
mécanique. Mais ça fonctionne par association d'idées, les mots.
Exactement. C'est-à-dire que moi, si je commence et que je vais dire bol, déjà, j'ai un gars à la table qui est là. Oh putain, bol, cacahuète, c'est pas hasardeux. Il est possible que cette personne ait.
D'accord.
Sauf que toi, admettons que tu es contre-espion, tu joues juste après moi. Donc t'as pas d'idée. Hein. Ta carte, c'est écrit contre-espion. Voilà. Le gars à côté a dit bol.
Tu vas dire chips.
Ouais. Et
oui,
ben,
voilà.
Là, tout de suite, c'est foireux parce que chips, cacahuète, c'est aussi très proche. C'est aussi proche que bol, cacahuète. Donc,
d'accord.
Ce jeu est super bien, c'est de la déduction sociale.
Mais contrairement à ce jeu-ci, enfin à Inhuman Conditions, c'est un jeu qui repose sur des associations d'idées, sur de la logique en fait.
Voilà. Mmh. C'est formel.
C'est formel. Tandis que là, on est sur un jeu où il y a peut-être une base de formel quelque part, parce qu'il y a des règles à respecter, il y a quelque chose. Il n'empêche que les 99% de l'interaction, c'est de l'interaction sociale. C'est des phrases, c'est des silences, c'est des regards, c'est du rire, c'est compter le temps que met l'autre à répondre, c'est tester des stratégies, sous pression de la durée.
Natacha est dans le public, elle brûle d'intervenir. Natacha.
Oui, mais Link s'affiche explicitement comme un jeu de société.
Bien sûr, celui-là aussi.
D'ambiance. Ah ouais.
Celui-là aussi.
Oui, mais est-ce que par exemple, tu vois, Romaric, tu dirais que Petit Meurtre entre Amis est un jeu de rôle. Et
il est aussi formel, hein.
Alors, attendez,
oui, et tu joues un rôle. Tu joues le Madame Machin, tu joues l'inspecteur. Et tu plaides pour ton personnage en plus. Hein.
C'est vrai, et tu dois faire des diatribes qui ont une certaine
Alors,
durée.
Alors, moi, j'ai tendance à penser que là, on a affaire à un jeu qui est inspiré d'une œuvre de fiction qui est Blade Runner.
Oui.
Quand j'ai joué, je me suis dit, OK, je repense aux musiques de Vangelis, je repense à la brume, je suis dans ce bâtiment orangé, je me suis mis dans l'ambiance. Vous avez bien vu la façon dont j'ai joué. D'ailleurs, je n'ai jamais perdu à ce jeu-là, le jeu dont on est en train de
jouer. Oui, ça, on pourra en reparler.
Je tiens à le dire.
Mais parce que tu as robot, c'est tout, c'est pour ça que tu n'as pas perdu.
Pourquoi ? Non, parce que j'ai eu la sensation.
Je t'interromps parce que ça m'a vraiment surpris. J'ai passé, comme j'ai expliqué le jeu à 2-3 personnes avant toi, j'avais bien le truc rodé et tout, je me suis assis à côté de toi, je t'ai tout expliqué de A à Z. Je crois vraiment que t'as pas trop bité. T'as lu les trucs, t'as fait OK, c'est Blade Runner. Et boum, ça t'a suffi à comprendre le jeu. Ça m'a foutu une claque.
Alors en fait, en tant qu'interrogateur, ça va.
Alors, oui, tout à fait, mais peu importe.
Le rôle du robot est plus compliqué.
Le robot est plus compliqué. Je suis d'accord avec toi, Adrien. Mais en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que pour moi, la différence, c'est que quand tu connais l'œuvre de fiction sur laquelle se base ce jeu, si tu te contentes juste de dire on va faire comme si on y était, tu gagnes. Et moi, je trouve ça, moi, généralement, je trouve que c'est une bonne preuve. Il y a un autre jeu qui m'a fait cet effet-là, c'est Race for the Galaxy, qu'on avait testé avec toi aussi, Adrien, où en gros, on a des cartes, c'est du deck building en live. J'ai dit, j'adore ce jeu, parce que je jouais dans l'esprit, en fait. Je me suis dit, OK, j'oublie complètement les règles. En fait, généralement, c'est ce qui se passe, parce que moi, je suis en surcharge cognitive très, très rapidement quand on m'explique un jeu très complexe. Là, ça a été le cas avec ce jeu. J'ai fait, OK. Au bout de, je sais pas, l'explication a dû durer un petit quart d'heure. Au bout de 10 minutes, j'étais en surcharge cognitive. J'ai quand même tenu 10 minutes.
Bravo, bravo, bravo.
Merci. Donc, du coup, je me suis dit, OK, je passe en mode roleplay. J'ai rien compris, mais je pense. J'ai analysé les règles. Je me suis dit, je pense que si.
Ah, bah, si t'as le film en tête, je veux dire, t'as pas besoin de. Pour l'inspecteur, hein, pas pour le.
J'ai compris. Si, je me suis dit, OK.
Par contre, le robot, tu te serais mis dans la merde, en fait, si t'avais pas.
Pas sûr.
Ouais, peut-être, je sais pas.
Pas sûr. Ouais. Au contraire.
Ah ouais, tu crois ?
Pas sûr. Non, au contraire.
Est-ce que tu peux simuler vraiment un être humain ?
Mais en fait, justement, en fait.
T'es un être humain dans tous les cas. Enfin,
alors, je vais avoir un élément stratégique à dire sur ce jeu qui fait partie de son génie en matière de game design. L'élément, c'est voilà. C'est pour moi, là où c'est important, c'est le rôle. En termes de roleplay, je trouve que le roleplay est récompensé indirectement. C'est-à-dire que fait de coller au canon esthétique de Blade Runner est récompensé. Parce que effectivement, en tant qu'investigateur, si tu poses des questions what the fuck chaotiques, tu pièges le robot. Pourquoi ? Et c'est là que j'en viens à ma deuxième analyse de ce jeu en termes de mécanique, et là où je le trouve vraiment génial, c'est que si on réfléchit bien, la personne qui joue le robot a un plan, comme un robot. Il a un programme, il a un plan de jeu. L'investigateur, lui, il n'a aucun plan de jeu. C'est un humain, il va dans tous les sens potentiellement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, je trouve ça vraiment très
très bien. Il a un plan de jeu, il a un scénario, il doit découvrir. Et après, la méthode pour l'obtenir, c'est différent. Mais c'est l'humain, c'est le seul qui n'a pas de plan de jeu. Parce que l'humain, il peut
répondre. Et c'est là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est que je pense que justement, si vous partez en tant qu'investigateur avec un plan de jeu, vous allez perdre. Parce que vous allez servir sur un plateau des éléments en fait, qui vont permettre au robot.
En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas la même chose derrière plan de jeu.
Alors, vas-y, développe ça.
Le plan de jeu, il a quand même un agenda, il a un objectif. À partir du moment où tu as un objectif, tu as un plan. Même si ton plan, c'est soit varié...
Le plan de jeu, c'est l'objectif ou...
L'objectif, l'investigateur ne sait pas ce qu'il a en face de lui.
Ouais.
Alors que le robot sait ce qu'il est, lui.
Oui, mais il doit le prouver.
Mais non, justement, c'est l'erreur.
Non, si c'est le robot, mais si c'est l'humain... Pour gagner, parce que tu oublies une condition de victoire, l'humain, pour gagner, parce que quand même, quand tu joues l'humain et que tu dois gagner, tu dois prouver à l'autre que tu es un humain, parce que sinon tu perds. Si l'autre croit que tu es un robot, en tant qu'humain, tu as perdu.
Et moi, parce que j'ai pensé que Flavie était un robot, alors que Flavie était une humaine, et on a perdu tous les deux.
Voilà. Pour reformuler, si l'investigateur interroge quelqu'un qui s'avère être un humain, mais qui dit « je pense que t'es un robot », les deux personnes ont perdu.
Ouais.
Pour faire simple, je pense que la façon dont le jeu distribue ses rôles est très intelligente, parce que je trouve que c'est en corrélation avec les entités fictionnelles. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, Broussaille. Quand tu dis « en tant qu'investigatrice, je me retrouve dans une position d'être le bras droit d'un état administratif froid », patapouf, tu me sers sur un plateau le truc.
Et en même temps...
le fait que le robot ait un certain nombre d'actions à exécuter fait que... qu'est-ce que c'est qu'un robot si ce n'est qu'un task maker ?
Ouais, bien sûr.
Et en même temps, je te dirais qu'il y a une troisième dimension, c'est que ce jeu-là a un propos. Vu les autres jeux qu'a fait... Il t'interroge sur toi-même, il t'interroge sur la société, il te fait te poser des questions. C'est pas juste... c'est pas juste un jeu d'ambiance qui simule bien une ambiance, c'est aussi un jeu qui t'interroge sur toi et ta vision des autres.
Bon, un Secret Hitler...
Enfin, ou pas, hein.
Quoi ? Secret Hitler, il y a un putain de propos.
Oui, oui, tout à fait, mais Ouais, ok.
Oui, ouais, tu peux pas commencer... Enfin, tu peux pas faire un jeu où il y a Hitler dans le titre... Et qu'il n'y a pas de propos.
Je suis d'accord, oui.
Enfin, si on peut, mais.
Ouais, c'est un peu limite.
Et il y a sans doute déjà un porno dessus, donc bon.
En tout cas, voilà. Voilà ce que moi, ce qui m'a vraiment marqué. Et encore une fois, d'un point de vue brainstorming, ce jeu ne peut pas se saisir par la simple contemplation d'une partie. Ça, je n'y crois pas une seconde. Tous ces exercices...
Se saisir au sens...
D'accord. Voilà. T'as pas fait le tour du jeu, passer un bon moment en suivant le...
Par contre, c'est vrai que c'est peut-être un jeu qui se laisse...
Regarder, contrairement à d'autres jeux de rôle.
Dans la description, ils le vendent comme ça, ils vendent que ça se joue en public parce que c'est assez agréable. Et dans leur promotion, ils ont fait plusieurs... En fait, en convention, ils le font jouer, ils filment. Et il le roleplay à 100%, quoi. Bonjour, inspecteur machin, je vais expliquer. Du coup, tu as des petites vidéos de 5 minutes qui te donnent une bonne idée du jeu et ça marche très bien. Mais je suis d'accord que tu n'as pas fait le tour du jeu. La preuve, c'est que j'avais potassé un peu les règles, j'avais vu ces vidéos-là, mais c'est la première fois que je l'ai amené au boulot pour y jouer que j'ai vraiment senti ce jeu-là, quoi. D'ailleurs, ce jeu-là, qui, Romaric, si tu veux repartir sur notre dualité de jeux qui te plaît et qui te plaît.
Alors, ouais,
pas,
ça m'intéresse beaucoup.
Link, ce genre de jeu, ça marche complètement au boulot, dans lequel. Enfin, au boulot, j'ai des joueurs classiques de jeux. Plateau, quoi.
Société,
ouais. Ce jeu-là, ça a fait un semi-flop parce que, quand t'es humain et qu'il faut improviser pendant 5 minutes, je vois pas le fun, quoi. Citation de mon collègue.
Ah oui, d'accord.
Et donc, ça prouve un peu que, c'est peut-être un aspect jeu de rôle.
Prouver que t'es humain, c'est pas. Enfin, et je sais que, tu sais, j'avais amené les questions sur le domaine moral, et c'est vrai que au dernier robot que j'interrogeais, je savais pas que c'était un robot, mais je lui ai dit, mais tu sais, t'as conscience que si t'es un robot, je devrais te tuer. Qu'est-ce que ça te fait de mourir ? Et tu peux poser des questions comme ça qui sont dérangeantes un peu à la Voidkampf.
D'accord, ouais. T'es allé loin, toi, tu vois, justement, Bruce,
parce que
très intéressant.
Je me suis dit, dans l'un des domaines de champ, il y a morale, belief, enfin...
T'as exploré à fond ce
moral,
ce champ-là.
Hein.
Ouais.
Le moral, mais est-ce que vous vous définissez comme quelqu'un de bien ? Prouvez-moi que vous êtes un humain. Comment vous pouvez me prouver que vous êtes un humain ?
Brainstorm. Chacun d'entre nous autour de cette table a un ressenti qui est très différent.
Mais c'est un truc qu'on s'est tous. Enfin, moi, je me le suis posé comme question. Est-ce que je vais pas parler de morale ? Le truc, c'est qu'en fait, derrière, t'as quand même la condition de victoire qui est. Et ce qui est énorme, c'est comme dans Paper, c'est que t'as la question morale, puis après t'as la question. J'enterre la morale parce que j'ai un travail, parce que j'ai des obligations, parce que... Et ça, c'est très déréalisant.
Natacha, tu voulais intervenir ?
Non, je pensais à ce que disait Darky sur...
les jeux. Ouais.
Et donc, je reviens sur Petit Meurtre et Fait Divers et j'essaye de trouver ce qui fait la différence entre ces deux jeux. Petit Meurtre Fait Divers, c'est un. Donc ça se joue à plusieurs, il faut être au moins 4 ou 5, je crois. Et donc il y a un inspecteur de police et 3 ou 4 suspects. Et ça se joue avec des espèces d'agenda, en fait. Et sur chaque date de l'agenda, il y a un scénario avec une situation donnée. Machin s'est fait voler ses bijoux, machin est mort. Voilà. Et donc 3 innocents, un coupable. Les 3 innocents ont les mêmes mots à caser dans leur discours de défense.
Ils ont genre 5 mots, un truc comme ça à caser dans leur
discours.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des mots liés à l'histoire en général. Par exemple, si c'est un vol de bijoux, ils auront le mot rubis, le mot enveloppe,
c'est des mots pertinents
en termes de champ lexical. Ouais.
D'accord.
Et le suspect en a 5 mots, 5 autres.
5 autres, ouais.
5 autres à placer.
Ouais.
Qui sont eux aussi pertinents ?
Oui.
Oui, je crois.
Oui, oui. Oui.
Okay. Voilà, et donc du coup, ils sont interrogés chacun leur tour par l'inspecteur, et dans les réponses et dans leur discours, il faut qu'ils cassent des mots.
T'as jamais le mot rhododendron pour un truc en pleine mer, quoi, tu vois. Tu peux avoir des jours de semaine, tu peux avoir des personnes, enfin voilà, il y a des choses comme ça.
Sachant que, alors il y a une contrainte supplémentaire, c'est que les innocents doivent aussi quand même brouiller les pistes de l'inspecteur. et donc sont invités à essayer de repérer les mots du suspect pour les caser aussi, eux aussi dans leur discours.
Parce que je crois qu'ils gagnent s'ils se font prendre pour le coupable, et que le coupable gagne s'il ne se fait pas choper, et l'inspecteur gagne s'il chope le coupable.
Ouais.
Donc c'est, en fait, ça prend le même mécanisme que Link. C'est une question de placer des mots, camoufler tes mots, te faire passer pour l'autre en utilisant le champ lexical ou les bons mots.
Mais t'es quand même dans une posture de personnage, voilà. Et donc j'essaye de...
En fait, la différence, c'est que tout le monde... Personne n'écoute le discours, tout le monde écoute le vocabulaire. Tu écoutes les mots.
Alors,
qui ont
moi
été
j'en avais
dit,
une autre.
Quel mot revient entre
par exemple,
les deux
pour
gens.
Ce jeu-là, j'ai du mal à voir un propos quelconque.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ah oui, il y a ça en plus, bien sûr. Ouais.
Et donc, ça vire beaucoup plus au jeu d'ambiance où tu vas dire n'importe quoi et tu vas rire facilement. Et... Mais.
Hyper ténue la distinction.
Non, la distinction, elle est grande. C'est que.
C'est plus sur la langue, en fait. Parce que là, tu parles de vocabulaire. Donc, on disait, on fait attention au vocabulaire.
C'est encore formel.
C'est formel. C'est formel. Ouais.
Là, en fait, quand tu vas. Par exemple, il y a des contraintes, c'est être silencieux pendant 10 secondes.
Donc, ça, c'est formel. Donc, ça passe.
10 secondes, c'est long. Très long.
Ouais. Mais t'en as d'autres qui sont ne pas parler au passé ou au futur. Et là, du coup, oui, techniquement, c'est formel, mais en vrai, si tu veux le détecter, tu le fais de façon informelle. C'est-à-dire qu'il faut que tu penses, inspecteur, à poser des questions sur le passé, sur le futur, que tu lui demandes de se projeter, qu'est-ce que tu feras le week-end prochain.
Sauf que ça ne suffit pas comme contrainte, parce que tu pourrais imaginer que les trois coupables, qui, au lieu de placer des mots dans Petit Meurtre en Famille,
oui,
est une contrainte de ce style.
Bien
par
sûr,
exemple,
pas mais
ce n'est
pas le cas.
Oui, mais même si c'était le cas, je crois que ça ne changerait pas le fait que le problème de Petit Meurtre en Famille, c'est qu'on s'en fout de ce qu'il raconte au final. On écoute juste les mots, on fait une liste et puis on fait un graphe. D'ailleurs, tu peux complètement contredire ce que dit quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de mécanisme qui l'empêche vraiment.
Vrai, ouais.
Tu peux dire,
Et en fait, c'est un jeu que j'ai envie de tester avec des gens qui sont bons au théâtre d'impro. Et de le
quoi,
présenter
de quoi,
plus
de,
comme...
Quel Petit Meurtre entre amis
pardon, non, je reviens sur...
Inhuman Condition.
Inhuman Condition. J'ai envie de le tester avec des gens qui sont bons en théâtre d'impro et de le présenter comme un exercice de théâtre d'impro plutôt que de l'aspect de jeu de rôle. Mais pour des gens, en fait, parce que c'est vrai qu'en en fait, en jeu de rôle, on a une habitude de l'improvisation, mais on n'est pas... C'est plus une habitude qu'une formation. Alors que des gens qui sont un peu rodés aux techniques d'improvisation.
Alors, fais attention, le théâtre d'impro, c'est pas forcément les mêmes techniques que le jeu de rôle, donc ils ont.
Oui,
ils
mais
ont
justement, c'est juste pour voir, en fait, je voulais voir, en fait, le. Parce que c'est vrai que, quelquefois, en tant que robot, on dit toujours robot alors que non, suspect. En tant que suspect, ouais. On peut être piégé parce qu'on va essayer de chercher à répondre, en fait, chercher à construire une fiction. En fait, un peu à la jeu de rôle. En jeu de rôle, tu as souvent tendance, là, en tant qu'humain, tu vas vouloir construire une fiction, construire un personnage cohérent, tu vois.
En tant que robot aussi.
Oui, non, mais qui ne sont pas des habitudes forcément du théâtre d'impro, qui sont plus du... De, comment ?
Ok, je suis un peu perdu, excuse-moi.
L'idée que, en fait, quand tu joues humain, en fait, tu peux te faire... on pense que tu es un robot parce que tu hésites, en fait... Tu bugs, tu te trompes.
Tu bugs.
Mais oui, mais oui.
Choisi.
Ouais. Tu te trompes sur une réponse. Tu dis, si on te demande.
C'est quoi la différence avec les robots alors?
mais justement toi, tu dois prouver que t'es humain si t'es humain.
Je vois bien ce qu'il veut dire.
Oui, tu vois.
C'est que, en fait, c'est ce que clair, tu veux dire, Broussaille, c'est que quelqu'un qui est rodé au théâtre d'impro. Il y aura beaucoup plus de facilité à jouer un humain, en fait, sera sur la même facilité à jouer les trois rôles.
Mmh.
Alors que quelqu'un qui n'a pas de ces facilités-là aura plus de facilité à jouer un humain qu'un n'importe quel autre robot.
Alors,
et
moi, je suis pas d'accord.
Je sais pas, justement, jusqu'à quel point.
Parce qu'en fait, être très bon en impro, ça fait que tu es très bon en humain. Mais qu'à partir du moment où tu as des contraintes, parce que les contraintes sont quand même assez strictes, hein. Les contraintes d'impro, c'est pas des trucs comme ça, ne parle pas au passé et au futur. Et donc en fait, le mec qui est très bon
sur
en impro,
le théâtre
il
d'impro,
sera
tu
très
peux
bon
l'avoir.
En humain.
Tu peux l'avoir.
Pas autant.
C'est plus la capacité à mentir et comme dans les jeux de déduction sociale, à embrouiller, je trouve qu'il faut que de la vraie inspiration.
Parce que il y a quelque chose un peu, en fait, qui est de la manipulation
aussi. Si t'es tout le temps un peu au ralenti. T'es tout le temps un peu ralenti. Alors que si t'es ralenti, par exemple, si tu mets 10 secondes à chaque réponse, que tu mets 10 secondes et demie parce qu'il t'a fallu intégrer la contrainte du robot ou 10 secondes parce que t'es un humain, les deux sont plus discernables, sont plus indiscernables l'un de l'autre, quoi. Donc justement, je pense qu'un des défauts du jeu, c'est que quand tu connais le jeu, quand tu connais les cartes qui viennent, oui, en voilà, fait, quand ouais, tu vas prendre l'habitude du jeu, mmh, eh ben,
tu vas non seulement reconnaître que ce sont des robots, mais tu vas reconnaître les contraintes qu'ils sont en train de jouer.
Et c'est clairement dangereux.
Oui, voilà,
savoir
c'est
en
le
tant qu'investigateur, quelles questions poser,
etc.
Voilà. Alors, est-ce que c'est un jeu justement où qui doit pas être, enfin, qui devrait pas dans son fonctionnement pouvoir être avoir
partagé,
des,
ouais, qui est
des modifiables, parce que c'est sûr que c'est, non mais c'est sûr que si si t'as joué quoi 15 parties, que t'as vu tous les trucs, au bout d'un moment tu ouais, joues plus le jeu quoi, tu
il a clairement une meilleure saveur quand tu découvres,
voilà,
la transition,
oui,
clairement, clairement.
Mais et, comme tu le disais, s'il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de découvertes, donc mm-hmm, et puis même une fois que tu connais, tu peux quand même être surpris, parce que genre tout à l'heure j'ai buté Flavie par accident parce que j'étais persuadé qu'elle avait la carte que j'avais déjà vu passer.
Exactement.
Et donc sa réaction me faisait penser à ça, donc voilà.
Et ça te fait quoi de buter comme ça quelqu'un froidement?
c'est cruel hein, surtout que c'est derrière, c'est à Romaric de l'enterrer dans le jardin. moi j'avais une remarque à faire et ça m'est sorti de l'esprit, du coup c'est un peu nul.
Moi je repense aussi à un jeu qu'on avait testé avec Jérémy Klein qui était Black et Mortimer ici à la Barreau, je sais pas si t'étais
oui,
là.
Oui, je connais.
Donc c'est un jeu aussi où tu dois c'est poser des questions. Différent.
Oh, mais tu non, dois retenir pareil, des indices là, c'est
calcul,
ça
t'as un exercice de mémoire, d'interrogation.
Un witness
c'est witness. The Witness, okay, et c'est un ouais, truc de, comment ça s'appelle, de passage d'info qui ouais, se dilue au fur et à mesure. Là,
un téléphone arabe.
Ouais, je cherchais le mot moins.
Pour le coup, c'est très mécanique là, ce jeu.
Oui, c'est très mécanique. Hein, c'est vraiment un jeu de passation d'informations et après d'énigmes.
Voilà, c'est ça.
L'énigme, mais quelles étaient les informations pertinentes pour les énigmes.
Très bien.
Ah, si, moi, il y a deux éléments dans le jeu que j'ai pensé à deux choses. La première chose, ça m'a un peu fait penser à Coma. Un de mes projets
de jeu.
Ah
oui, ça tu voulais.
Et du coup, je voulais en parler parce que c'est un des éléments que je trouve cruciaux en fait dans ce jeu qui fait que pour moi ce jeu fonctionne bien. Je parle de Inhuman Conditions, hein, pas particulièrement pour Coma. Mais dans Coma, tout l'enjeu, donc Coma, un joueur joue une personne qui vient de mourir et qui va se retrouver à voyager dans ses souvenirs et ça va être un jeu à deux avec un dialogue avec l'autre, notre autre voix intérieure, on va dire. Et à la fin, les deux joueurs vont se poser la question, en secret et mutuellement, est-ce que le mourant a envie de revenir à la vie ou est-ce qu'il préfère voyager vers la mort ? Les deux vont répondre de façon indifférente.
Je rappelle qu'on a fait un podcast sur Coma ouais, et que vous pouvez aller l'écouter.
Les deux vont répondre de façon secrète et ensuite, le mourant va choisir s'il suit l'autre ou pas. En gros, est-ce que je te fais confiance pour avoir compris le personnage de la même façon que moi ? Ouais. Et ça, c'est un élément qu'au début, je n'avais pas pensé de façon très... que je trouvais intéressante pour la fin, mais pas forcément très réfléchie. Et ça marchait très bien parce que ça pose le cœur du jeu qui est... Le cœur du jeu, c'est est-ce que ce PJ que toi, tu m'as présenté, est-ce qu'on l'a compris pareil ?
On voit que la finalité, en fait, du
c'est
jeu
la compréhension,
a un impact énorme sur
ça,
ce qui se passe pendant le jeu. C'est la
ça,
fin du jeu qui détermine le contenu de la partie.
Ouais.
Ouais, dans les deux jeux.
Et ça, en fait, on le retrouve un peu ici. C'est, on va se retrouver à terme des 5 minutes ou du moment où la partie s'arrête, à se poser la question, est-ce que tous les deux, on a compris le personnage de la même façon?
C'est génial.
Et je trouve ça super intéressant.
Ah, ouais,
c'est... Alors certes, il y a des aspects mécaniques qui biaisent un petit peu la chose, mais il n'empêche que ça a cette élégance de... y a quelqu'un qui vient, qui se présente nu à toi, il est face au psy ultime, quoi, le mec qui peut te flinguer,
oui,
qui peut te sauver.
Et... C'est pas un bon psy, hein, s'il te flingue, mais je pense...
en même temps, c'est un psy dans son système qui
l'oblige, oui,
etc.
Non.
Donc ça, c'est un mécanisme que j'avais trouvé très, très, très intéressant. M'a vraiment beaucoup touché.
Et là, on en vient au cœur. Alors, excuse-moi, Dark, tu voulais embrayer ça quelque chose?
Non, en fait, je voulais dire, au final, là, on est dans le marécage des jeux sociaux et on essaie de déterminer lesquels tombent du côté.
Eh ben, je crois que j'ai trouvé une...
Je crois aussi, alors vas-y. D'après ce que dit Adrien, et d'après ce que tu dis en mode, ah ouais, mais ça, tu vois... parce que toi, tu regardes les gens... Romaric, pardon. Quand tu interroges quelqu'un dans ce jeu, tu regardes droit dans les yeux et tu cherches à savoir s'il ment ou pas. Ce que je trouve est une mécanique de loup-garou, quoi. C'est, regarde-moi dans les yeux, moi, je vais réussir à lire ton âme et dis-moi, est-ce que t'aurais tué telle personne ? Donc ça, c'est du loup-garou, c'est pas forcément ta cam, parce qu'il n'y a pas encore de jeu de rôle. Par contre, il y a une vraie... Tu cherches non seulement à savoir s'il ment, mais tu cherches à savoir si on interprète pareil la fiction.
Ouais. C'est un jeu autour du maelstrom en fait.
C'est
ouais, ça. Ouais, non mais complètement, ouais, complètement. Alors moi j'ai une manière de distinguer ces jeux. Justement, on est dans le marécage des jeux sociaux, etc. Moi, et c'est pour ça que je voulais parler de Black et Mortimer tout à l'heure. Ce que j'ai la sensation à Linku, à Black et Mortimer, il y a tous ces. Alors je n'ai pas joué à celui-là.
Bah, bon, peu importe.
Mais à tous ces jeux-là, j'ai l'impression qu'une machine ferait mieux que moi à ma place. C'est-à-dire que si j'étais un hypercalculateur, un PC, etc. Eh bien, je serais meilleur qu'un humain. À ce jeu, c'est pas vrai. l'humain est meilleur. Et en fait, c'est ça qui me plaît, c'est que les capacités qui sont attendues
en fait,
par le
ça.
Jeu...
C'est que c'est pas intéressant que ce soit une machine qui joue. C'est pas intéressant.
Attends. Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai la sensation, et ce qui fait la frustration pour moi dans ces jeux-là, c'est que j'ai la sensation que les capacités attendues par le jeu, dans un cas, sont des capacités de machine, dans un autre, sont des capacités humaines.
C'est ce qu'on disait entre formel et...
Exactement. Mais c'est une autre manière de le dire qui sera peut-être plus clair pour les gens qui n'ont pas forcément...
Avec un autre langage.
Le mot formel, il n'est pas clair pour la plupart des gens. C'est des vocables de logiciens, ça. Ou de linguistes. Et donc, du coup, tu vois, l'idée, c'est que les capacités attendues par Blake et Mortimer... par Linkus ont presque des capacités qui sont des capacités de machine. Alors que là, dans ce jeu et dans Coma, en fait, ce qu'on interroge, c'est l'humain.
Et
le skill, il vient de tes capacités humaines.
Et j'avais un deuxième exemple qui était Menu pour toujours. Parce que Menu pour toujours, c'est la même chose. Menu pour toujours, t'es dans un conflit autour de la fiction, à qui tu fais confiance, à qui tu ne fais pas confiance. Ouais. Et c'est le même type d'interaction qui est... Sauf que dans Minute pour toujours, c'est plus perdant-perdant. Quoi.
Et là aussi, on voit que c'est un jeu qui tripe bien autour du Maelstrom.
Bien sûr.
Et un truc aussi qui me vient en tête, c'est que du coup, les jeux dans lesquels le skill est humain, si j'ose dire, tu vois, le skill repose sur des capacités humaines et non computationnelles. Hein.
Social,
eh ben, tu vois, ou social, ouais, j'ai envie de dire humaine.
Je préfère social.
Non, parce que non, regarde, Bonsaï nous montre que sa stratégie de jeu est morale.
Dans 2000 ans.
Ah bah oui, non, mais t'es
obligé,
tu tues
quand
quelqu'un.
Dans 2000 ans, des robots qui auront une âme, qui auront à passer ce genre de test. Tu crois qu'ils ne seront pas capables d'y jouer entre eux?
Pour rire.
Ça serait pas très bien.
Et ils joueraient, à mon avis, ils ne vont pas bien jouer à ce jeu.
Je sais pas. S'ils sont capables de le passer des fois.
Une des raisons de ça, c'est que je pense que ce jeu et l'un de ses propos, c'est d'interroger justement ce qui fait de nous des êtres humains. Et que, en fait, alors pourquoi ? Pourquoi ? Je développe un peu parce que sinon je sens arriver les sarcasmes. C'est qu'en fait, on est constamment, à titre personnel, moi, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, un étranger, mais je suis constamment un investigateur. Alors, mon but n'est pas forcément de déterminer si c'est un robot ou si c'est un être humain.
Ah bon ?
Mais si c'est un mec de gauche ou un mec de droite.
Exactement. Exactement. Ou du moins quelqu'un qui partagerait des problématiques existentielles qui seraient similaires aux miennes. Et ça, je suis désolé, mais il n'y a pas de manière directe de le poser, la question. Et donc,
pourquoi ?
Ça rejoint une discussion.
Alors là, on revient à le truc du small talk.
C'est ça, j'avais dit la discussion de tout à l'heure. Bonjour, que pensez-vous de la mort ?
Mais attends,
on ne peut pas commencer par...
Tu ne sauras jamais, imaginons que tu poses cette question-là à n'importe qui, la personne te répond, ça n'aura jamais la même valeur de faire une activité sur le long terme avec lui au sujet de cette question et d'écouter simplement sa réponse. Je suis désolé, mais dire les choses et les montrer, on en vient à cette vieille distinction wittgensteinienne, il y a une différence entre me donner une réponse, me communiquer une réponse et vivre ensemble la réponse durant une campagne de sens. Tu vois, c'est quand même pas la même chose, quoi. Et donc, du coup, pour moi, le jeu-là, il te propose de montrer, enfin tu vois, il y a un côté,
ouais,
il te propose une activité en 5 minutes de te parler d'un truc qui est universalisable, c'est-à-dire cette sensation qu'on a tous lors de la première rencontre, quand on analyse en fait quelqu'un, qu'on se dit, est-ce que c'est un futur ami ?
Est-ce que c'est un robot, un jeu de séduction.
Je pense.
Mais oui, Louis Morgan, j'en parlais.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, regarde.
Louis Morgan.
Tu vois, je me dis aussi que quand tu connais le rôle de l'humain, du suspect ou quoi que ce soit, que tu connais un peu le jeu, je me demande s'il n'y a pas aussi des stratégies en tant que, enfin des stratégies, des façons d'interroger l'autre, parce que si tu commences en tant que suspect à dire, s'il vous plaît, me tuez pas. Je vous en prie, me tuez pas. Mmh. Tu réponds pas aux questions, tu dis non, je veux pas passer ce test. J'en prie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que fait l'autre? Comment réagit l'autre?
Ouais,
est-ce que c'est un robot?
Là, tu dis c'est robot, là.
Et ben, ouais, mais
si ça dure tout l'interrogatoire, ouais. Soit c'est un robot passif, mais en tout cas, c'est pas un assassin parce que placer.
Oui, c'est pas l'assassin.
Mais tu vois,
est-ce que c'est un humain aussi qui a peur en fait de toi?
Tu vois bien que le brainstorm amené par ce type de situation est précisément le brainstorm qu'on a quand on rencontre quelqu'un de nouveau. Et qu'il a un comportement qui nous semble étrange ou étranger.
Oui, mais tout le monde.
Non, mais tout le monde nous paraît étrange.
Ouais.
C'est vrai. Personne n'a la même éducation que moi. Et donc, par définition, tout le monde est un peu étrange. Darky, il a des choses étranges. Il a des fantasmes étranges. Et
il nous en parle chaque fois, on comprend
mais
pas.
Même
quand tu joues à des jeux de société.
Parlons par exemple de la pièce où le temps est arrêté, qui est un fantasme étrange de Darky, donc on a longtemps sur lequel. Je vous parle pas de fantasmes sexuels. Voilà tout de suite.
Je le voyais
te regarder en tirant la langue, en se léchant l'ombre.
C'est pas sexuel, fantasme, c'est d'abord quelque chose d'imaginaire.
J'aime bien cette invocation, prof de latin.
J'ai la carte.
C'est ça, je pense que tu es un robot, Broussaille. L'invocation prof de latin, alors là, je pense qu'elle est suspecte. Non mais tu vois, l'idée c'est, on a tous des petits trucs bizarres, tu vois, on est tous tous des petits côtés, des petites répétitions de même. Moi je prends tous les tics de langage.
Oui mais justement. Tu vois,
de langage bizarre.
Quand je parlais, alors tout le monde, je vais clarifier
jamais dit
peut-être.
Jeu drôle, pourtant,
j'ai jamais dit jeu de rôle.
Je vais clarifier ce que je disais tout à l'heure sur le théâtre d'impro qui n'était pas clair. Dans le théâtre d'impro, on t'apprend à très vite. Alors parce que on le fait en jeu de rôle, mais pas toujours et pas tout le temps. On t'apprend très vite à camper un personnage, c'est-à-dire à caractériser un personnage au travers d'un tic, au travers de quoi que ce soit. Et dans le théâtre d'impro, très vite. Le but sur scène, c'est quand même, tu as deux personnages, c'est de pouvoir les distinguer.
Ouais,
donc très vite, tu es obligé, parce que ça dure souvent, enfin sur des exercices assez courts, tu es obligé très vite de caractériser un personnage. Et ça, c'est en jeu de rôle quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de, soit pas l'habitude de faire du tout, soit pas l'habitude de faire très vite, parce qu'on a une partie de 4 heures qui va permettre d'explorer son personnage, de le peaufiner. Alors qu'on ne sait pas, sur 5 minutes... Sur 5 minutes, je sais pas jouer un personnage convaincant.
Alors d'accord. En même temps, je viens de réaliser un truc essentiel de ce jeu, c'est que si tu proposes une feuille de personnage au robot / humain / suspect, en fait, le jeu il pète complètement. Si, imaginons par exemple que parce que l'investigateur il a des conseils devant lui, de type de questions qu'il peut poser. Imaginez par exemple que le jeu vous propose de choisir humain, robot, machin truc, et en même temps qu'il y ait des suggestions aussi de personnages. Vous êtes la femme de ménage d'Abraham Lincoln.
Alors il y a juste une vague
suggestion. C'est le cas. Il y en a une
passion
en
fait.
Il y a une occupation.
Il y a une occupation, mais qui est assez courte en fait.
Qui est assez courte, mais qui est très évocatrice.
Qui est très.
Du genre, t'es vendeur de vieux vannes. T'es archéologue déchu.
Il me semble que tu peux choisir de
regarde,
mais
regarde,
le but,
alors,
d'ancrer.
On va citer juste un exemple très concret. Ce qu'a joué Adrien, où il a très vite caractérisé un personnage. Il jouait, alors on lui proposait le suspect est vétéran de la guerre contre les machines.
Mais oui, c'est vrai en plus.
Et il a dit à un moment, ses propos étaient au départ, enfin moi j'étais juste spectatrice, hein. Je regardais, il avait des propos quand même qui étaient assez incohérents et je me dis robot. Et au bout d'un moment, il me dit, vous avez vu, c'était toi l'interrogateur. Vous avez vu cette blessure là? J'ai perdu la moitié de mon hémisphère gauche lors des guerres. Et là, j'étais dans ma tête, zut, l'hémisphère gauche, c'est quoi déjà? C'est quelle fonction du langage? C'est quoi que ce soit? Est-ce que ça explique une aphasie? Est-ce que ça explique? Et je me dis, mais merde, on va condamner en fait un handicapé ou une personne blessée à un robot parce qu'il répond pas de manière. Mais des gens qui ont des problèmes d'aphasie, des gens qui ont des problèmes d'élocution.
Mais là, t'es en train de dire encore une fois l'universalisation possible de ce jeu.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, en gros, mais regardez, je vous parlais de trucs étranges. Mais par exemple, quand on rencontre un handicapé, il n'est pas comme moi, tu vois ce que je veux dire? Il est effectivement, il se balade en fauteuil roulant, il a tout un tas de propriétés que je n'ai pas, etc. Et donc, au départ, dans le jeu de séduction, dans la manière dont le feedback...
Oui, mais là tu es sur un handicap visible, par exemple, le fauteuil roulant. Les handicaps, par exemple, qui touchent le langage et qui, quelquefois, sont pas... Oui, voilà. Non, mais...
Je connais bien.
Mais sur des cas même très légers de dyslexie,
oui.
Tu peux trouver la personne bizarre sans comprendre pourquoi toi-même tu la trouves bizarre. Et il y a quelque chose, tu sais...
Ce jeu, justement, parle de ça. Et nous met dans une position
mais
très inconfortable.
Mais du handicap, oui.
Que ce soit dans le cas d'investigateur ou de la personne suspecte...
Il y a un élément que j'aimerais quand même faire repérer en termes de stratégie, parce que pour moi, le jeu a quand même des petites failles quand on l'analyse d'un point de vue stratégique. Alors déjà, il y a 3 rôles possibles. Deux sont des robots, un est un humain. Je ne sais pas comment seront répartis les stats de machin, mais s'il y a une carte humain, une carte robot, une carte robot tueur... les chances d'être humain sont faibles, donc on va toujours appuyer sur la gâchette robot. Il y a un aspect comme ça. Et ensuite, il y a l'autre effet qui est que l'humain n'ayant jamais de contraintes, il y a une sorte d'asymétrie de comportement qui peut être, alors, qui est voulue, certes, mais
peut-être aisément identifiable.
Je sais pas. En fait, le truc, c'est que ça me dérange parce qu'à la fois, c'est le cœur du jeu qui est le robot qui est étrange, mais à la fois, je sais pas comment le verbaliser clairement.
Mais pour moi, là, on est typiquement dans le cadre de la balle fantôme. Pour moi, en fait, la plupart des parties, ce seront des robots qui seront en face de nous. Mais comme il y a une chance qu'il soit humain...
Attention, parce que sur les trois, tu peux tirer trois fois trois alors, humains.
Ça, c'est aujourd'hui, mais en fait, terme, ce sera donné au hasard, vraiment au hasard.
Enfin, ce que je veux dire, c'est pour moi, c'est... En fait, la suspicion est forte que ce soit un robot en face. Honnêtement, si tu
réfléchis... Mais s'il a deux chances sur trois d'être un... S'il vient à l'interrogatoire...
C'est de la mauvaise logique, ça.
Voilà. Non, mais s'il vient à l'interrogatoire, c'est forcément qu'il est suspect.
Ben non, tous les...
Je le fais exprès. C'est forcément un suspect.
Eh oui.
Regarde, moi, j'avais un des personnages. Son occupation, entre guillemets, c'est « vous n'avez pas de... » Alors, c'était pas casier judiciaire, mais vous n'avez pas de...
On n'apparaît pas dans les documents publics.
On n'apparaît pas dans les documents publics. Vous êtes doublement suspect. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas inscrit dans les registres? Vous voulez échapper à quoi? Et... Mais je travaille, j'ai une occupation. Ah ouais? Vous trouvez ça légal de... Tu vois, il y a des...
Mais ce soi-disant problème que je dis d'entier, c'est... J'en ai pas fait le tour du tout, hein. J'ai fait trois parties, c'est une intuition. Je me dis, est-ce qu'un hack possible, ça serait pas qu'il y ait un humain dont l'objectif c'est de passer pour un robot parce que c'est genre un nanar activiste, je sais pas quoi, qui veut montrer que le système n'est pas fonctionnel, je sais pas quoi. Et donc du coup, ça casserait un peu la dynamique de normalité.
Et lui, il gagne si jamais il est considéré comme un robot alors
que c'est ça.
Alors c'est là où je dois préciser que le jeu, il a été mis sur Kickstarter en 2017, il va être livré en fin d'année. Les développeurs sont encore en train de plancher dessus. Là, on a joué à une version pas définitive, il y a 2-3 règles qui vont changer, mais clairement, ils ont identifié ce problème. Il y a aussi le problème que jouer humain, c'est pas forcément fun, c'est moins fun des trois.
C'est ça. Donc, si t'as quelques contraintes ou quelques éléments pour te
rendre
un peu bizarre, pas bizarre,
c'est moins fun,
cas,
mais c'est moins fun, mais il faut gagner en tant qu'humain et pas te faire tuer.
Bien sûr,
même.
Dans la mesure où ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que t'as plus de chances, alors je suis pas d'accord avec vous. Être humain, c'est extrêmement fun parce que dans la mesure où l'investigateur sait qu'il a plus de chances de se retrouver face à un robot qu'à un humain, c'est d'autant plus difficile.
Plus de chances, c'est pas vrai, ça on le sait pas en fait.
Là, il y avait deux sur trois en fait. Il y avait une chance sur trois, pardon.
Non,
d'accord.
C'est pas parce qu'il y a trois.
C'est vraiment aléatoire.
C'est pas parce qu'il y a trois types de rôles.
Je t'avais dit, c'est de la mauvaise logique.
C'est pas parce qu'il y a trois types de rôles qu'il y a une chance sur trois de tomber sur chacun. Parce que par exemple, tu pourrais imaginer une grande urne avec la boule noire, c'était un robot assassin. La boule rouge, c'était un robot neutre. Et t'as 98 boules blanches, t'es un humain. Et donc là, du coup, tes chances, c'est pas.
Mais quelle est la statistique en fait? Je veux dire,
on la connaît pas encore.
On
la vit 50-50. Franchement, ça serait le plus logique. T'as une chance sur deux que le gars en face de toi soit humain. Et si le robot,
voilà.
Mais c'est déjà énorme. Chance sur deux, parce qu'une chance sur deux, est-ce que tu prends le risque, est-ce que tu prends pas le risque, tu vois, c'est
énorme. Ouais. Après, dans la mécanique, au moins, c'est équilibré.
Le jeu ne te fait pas explorer les conséquences d'un mauvais choix de l'investigateur.
Bien sûr, ce qui serait ultra intéressant.
Mais attends, mais moi, je me les suis posés. Je me dis à un moment, et le dernier,
oui,
en fait,
le jeu ne te récompense pas du fait
d'accord,
de
t'es
passé. Oui,
mais alors,
plus à le faire.
Je te dirais que c'est en jeu vidéo, enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, les propres récompenses, les propres défis que tu te mets dans un jeu vidéo.
D'accord.
Et il y a un peu ça. Là, je me suis dit aussi à la fin, j'ai un doute. Mais si je tue la personne en face de moi, elle est morte. Si j'ai un doute, je tue un humain. Donc, à la limite, ça n'a pas l'air d'être un robot agressif. Si c'est un robot passif, c'est pas grave. Il sera considéré comme un humain, mais au prochain test...
Mais si tu te trompes et que c'est un robot agressif, il te bute.
Non, mais là, il n'y avait pas manifestement.
En fait, c'est un peu le truc du tramway, tu vois. C'est, est-ce que j'enclenche et je le tue lui? Est-ce que je ne fais rien? Et soit il me tue moi, soit il tue 1000 personnes plus tard.
Est-ce que c'est grave si je meurs moi en tant qu'investigateur?
Putain, moi si. Enfin, je suis désolé, moi je suis méga égoïste.
On a souvent ce genre de dilemme aussi dans les jeux sociaux.
Pour moi, je sais pas.
Je sais pas si mon meilleur pote est en train de me mentir. Et donc tu te demandes, est-ce que je préfère le tuer et tant pis lui en vouloir, mais j'ai mal joué, ou est-ce que je préfère me laisser berner et il pourra à vie s'en vanter? Il y a du métagame sur le fait.
Oui, c'est pas. Les choix sont pas anodins d'un individu à l'autre. On va pas forcément faire les mêmes choix en fait.
Très très intéressant ce jeu en tout cas.
En tout cas une très agréable découverte.
On en discute. Et un jeu très très court en 5 minutes qui permet franchement d'occuper un petit moment Et en plus de le refaire à libidum. Quoi.
Du coup, il faut s'intéresser aux Kickstarter qui ne sont pas forcément des jeux de rôle parce que ça peut en être caché.
Oui, mais il est fini le Kickstarter, tu nous dis. Donc,
oui, mais tu peux, sur le site, le jeu est téléchargeable.
Donc, ton Kickstarter pour ta piscine, tu dis que typiquement on devrait venir financer et peut-être ça serait du jeu de rôle, c'est ça?
C'est participatif et tu sais, dans ma piscine, l'immersion est très bonne.
C'est vrai. Bravo.
Petite note, je tease un prochain jeu que j'aimerais bien vous faire tester. Que peut-être Adrien connaît.
C'est un jeu à boire.
Fake Artist Goes into New York.
Non, ça me dit
rien. Ok, c'est très simple, c'est un jeu de déduction sociale dans lequel on va dessiner à tour de rôle.
Et
à coup
c'est
de.
C'est parti pour une heure de podcast.
Non, c'est très court. Et de toute façon.
Ah, mais de podcast.
Je tease
une heure. C'est pas une heure de
dans
jeu,
le futur, j'espère bien. Ouais. L'idée, c'est qu'on a tous un crayon d'une certaine couleur. Et on va
du futur, c'est
on va se faire passer une œuvre d'art et on va chacun notre tour tracer un morceau du dessin.
Ah
d'accord,
oui, si j'ai entendu pas.
Chacun d'entre nous a reçu un petit mot secret de ce qu'on va dessiner, d'accord? Donc ouais. Nous tous on a dessus le mot girafe, sauf l'un d'entre nous. L'un d'entre nous, il est le faussaire, il a un point d'interrogation.
Ah oui, d'accord.
OK. Lui, il va recevoir un plateau avec un début de girafe mais qui sera pas obvious hein. Personne n'aura envie de dessiner très vite une girafe parce que si jamais le faussaire est capable de dire en fait je sais c'est quoi, vous dessinez une girafe.
Ah oui, d'accord, oui, c'est ça le voilà. Ouais.
Et ça, c'est un jeu dans lequel c'est très mécanique, c'est de la déduction sociale. Pourtant, il y a
ça ressemble au Linku du dessin ton truc.
Oui, sauf qu'un robot je peux pas jouer mieux que toi. Parce que c'est complètement de l'interprétation, de l'imagination, et puis il y a une histoire qui se crée quand tu dessines un peu mal avec des traits
bizarres.
Avec
tous les algorithmes d'accord. De reconnaissance d'image. Dessiner
un peu mal. Tu dessines un peu
tu
mal.
Tu veux me faire tester un jeu et me faire faire une heure de podcast pour me dire que j'ai tort
et que tu t'es pas dessiné quoi.
Voilà.
Déjà, non, oui. Et non, j'aimerais bien ton avis.
Tout ça pour dire, franchement, Romaric, ta girafe ressemble à un gros pénis.
Mais aussi, plus ça va, plus j'aimerais être amené dans le jeu de société, et bientôt tu joueras au Monopoly ou je sais pas.
Mais bien sûr.
Au Bille en disant waouh, c'est un jeu drôle.
Les jeux quoi.
Non, bien sûr. Oui, Monopoly est un mauvais
en exemple. Demandant si le Monopoly est un jeu de rôle.
Bon, en tout cas, je mettrai dans les descriptions de quoi trouver le jeu gratuitement en PDF et de quoi y jouer sur PC.
Super, ouais, ça c'est excellent.
Merci beaucoup Darky.
Ouais, merci.
Merci Broussaille, merci Adrien, merci Natacha.
Merci à toi.
D'être intervenu. À très bientôt tout le monde.
Gros bisous.
Ciao.
Jouez bien.
Vous êtes un robot.
Je vous tue.
Suspect.